Vous écoutez, on lit pour vous.
La jungle du café. La production mondiale du café laisse un goût amer. Un texte d'Annabelle Caillou paru le 19 janvier 2026 dans Le Devoir. Au réveil, entre deux réunions ou après le repas, le café rythme nos journées. Avec 2,5 milliards de tasses consommées chaque jour, il figure parmi les boissons les plus populaires au monde. Mais sait-on vraiment qui le cultive, comment et à quel prix? Dans la jungle du café, le journaliste français Pierre-Wolfe Mondrou enquête sur l'industrie de cet or noir qui enrichit les multinationales et laisse sur le carreau les petits producteurs. Les petits producteurs ne gagnent rien. Ils ne vivent pas du café ou très peu, alors qu'ils représentent 80% de la production mondiale. Ce n'est pas normal quand on sait que le café rapporte de plus en plus d'argent, souligne-t-il au Devoir. Grand amoureux du café, le journaliste qui écrit dans le magazine Le Pèlerin a voulu comprendre les rouages de cette filière mondialisée. Pendant un an, il a sillonné une quinzaine de pays producteurs, de l'Éthiopie au Nicaragua, en passant évidemment par le Brésil et le Vietnam, qui assurent à eux seuls près de la moitié des exportations mondiales. Sur le terrain, il a rencontré cueilleurs, caféiculteurs, agronomes, coopératives et dirigeants de grands groupes. À partir de leurs témoignages et de ses propres constats, il lève le voile sur un paradoxe monstrueux. Le commerce du café se porte à merveille. Sa consommation mondiale augmente de 1 à 2% par année depuis des décennies, et les consommateurs prêts à payer cher pour boire du bon café sont plus nombreux que jamais. Pourtant, ceux qui récoltent ces grains vivent dans une précarité grandissante. La loi de la jungle. À la source de leur malheur, du moins en partie, la libéralisation du marché du café en 1989. À partir de cette date, les quotas de production par pays fixés pendant 27 ans par un accord international n'ont plus cours. Place à la jungle. Que le plus productif gagne, écrit l'auteur dans son livre. Un système qui, résume-t-il, rend les plus forts encore plus forts et les plus faibles encore plus faibles. La richesse qui émane du secteur est aujourd'hui accaparée par les grandes multinationales comme le géant américain Starbucks ou le Suisse Nestlé. En imposant des prix d'achat très bas, elles fragilisent les petits producteurs et favorisent des pratiques sociales et environnementales délétères. Pour produire toujours plus et vite, certains ont recours à l'exploitation humaine. Les multinationales savent, mais ferme les yeux, affirme le journaliste. Dans son livre, il documente l'existence persistante du travail forcé dans plusieurs plantations où les cueilleurs n'ont aucun matériel de protection, vivent dans des conditions de vie lamentables et touchent un salaire de misère. C'est de l'esclavage moderne. Les caféiculteurs peinent, eux, à rentabiliser leurs fermes puisque le prix de leur café n'a guère augmenté en 30 ans. Alors que l'inflation a explosé. Pour survivre, beaucoup cumulent les emplois, d'autres abandonnent leurs terres et s'aventurent sur les routes migratoires dans l'espoir d'un avenir meilleur. À cela s'ajoute la destruction des sols. Le Vietnam, par exemple, passé en 10 ans du 28e au 2e rang mondial, a intensifié l'usage d'engrais et de pesticides dans ses plantations au point de rendre certaines terres impropres à de nouvelles cultures. Les changements climatiques aggravent aussi la situation en favorisant des températures extrêmes et des maladies qui ravagent les plantations. Ces dernières années, le Brésil et le Vietnam ont connu des épisodes de sécheresse sans précédent qui ont mis en péril leurs récoltes. Les plants de café sont fragiles et capricieux, particulièrement vulnérables à la chaleur. D'où l'augmentation du prix de votre café depuis 1 an et demi. Si rien ne change, la moitié des terres où pousse le café deviendront impropres à sa culture d'ici 2050 prévient Pierre Wolfe Mondrou. Vers la fin du café, entre l'abandon des plantations et la production de plus en plus incertaine, le café pourrait-il disparaître de nos déjeuners? Tant que des hommes rêveront de fortune, ils planteront du café, répond l'auteur, convaincu que certains pays pauvres prendront toujours le relais dans l'espoir de s'enrichir. Il a aussi rencontré des producteurs qui, malgré la misère, refusent de quitter des terres familiales transmises depuis des générations. Autre source d'espoir pour l'avenir, la science. Il y a eu une prise de conscience dans la dernière décennie du risque réel de disparition du café. Résultat, l'argent coule à flot dans la recherche qui teste la résistance de variétés peu connues et en développe de nouvelles. Pour sortir les caféiculteurs de la pauvreté, toutefois, la clé est l'éducation. On peut les aider à transformer le café, à former des coopératives, à se convertir à l'agroforesterie, à diversifier leur culture. L'auteur juge aussi pressant qu'un prix minimum d'achat soit imposé et estime que les multinationales devraient être responsables devant la justice si leur café exploite des hommes. Il rêve en grand et imagine même des primes d'incitation pour le café produit en agroforesterie, des malus pour le café issu de l'agriculture intensive, la fin de la spéculation financière ou la taxation des fabricants de capsules non dégradables. Quand on fait de l'enquête, on rêve de changer le monde, mais c'est rarement le cas, confie-t-il, lucide. Il espère toutefois que son livre contribuera à sensibiliser les consommateurs aux injustices qui gangrènent la filière et aux dangers qui menacent l'avenir du café, afin de les inciter à mieux choisir ce qu'ils mettent dans leur tasse. C'était « La jungle du café, la production mondiale du café laisse un goût amer », un texte d'Annabelle Cailloux paru le 19 janvier 2026 dans Le Devoir.
Le bienfait de s'occuper de ses petits-enfants, un texte de Mathieu Perrault, paru le 22 février 2026 dans La Presse. S'occuper de ses petits-enfants protège le cerveau, selon une récente étude sur la santé des aînés. Quelques fois par mois, Jean-Guy Sanche joue au billard avec son petit-fils Julien, 18 ans. Ça me permet d'être une présence dans sa vie. J'avais un grand-père que j'ai appris à connaître à l'adolescence. Il m'a beaucoup donné. Monsieur Sanche, qui a trois autres petits-enfants, estime que son rôle de grand-papa est bénéfique, tant pour lui que pour eux. Des fois, ils font des observations et je me rends compte que je ne peux pas m'asseoir dans mes certitudes. Ça me garde flexible, ça m'oblige à m'adapter. Ce temps passé avec ses petits-enfants est bon pour la santé de M. Sanche, confirme la science. À la fin de janvier, une étude sur 2887 Britanniques, suivie pendant 6 ans, a démontré que ceux qui s'occupaient de leurs petits-enfants avaient moins de déclin de la mémoire et du vocabulaire. Pour les femmes, il y avait moins de baisse durant ces 6 ans sur des tests cognitifs, dit Flavia Schirech, de l'Université de Tilburg, aux Pays-Bas, qui est l'auteur principal de l'étude publiée dans la revue Psychology and Aging. L'effet cognitif de fréquenter ses petits-enfants était petit, mais statistiquement significatif. Et il est comparable à d'autres activités sociales ou intellectuelles qu'on recommande souvent pour prévenir le déclin cognitif, note Madame Schirech. La patte patrouille. Prête Sorel. Françoise Reed, elle, s'occupe du quotidien de ses quatre petits-enfants, cours de natation, trajet de l'école ou de la garderie vers la maison, ou alors les vacances à sa maison de Saint-François. « C'est tellement de joie pour moi, » dit Madame Reed. « Les enfants m'appellent Mamou. » Ma première petite-fille, Mathilde, disait « Mamour », comme dans « Mamie Amour ». Son petit frère, Léonard, avait du mal à prononcer les R, alors c'est devenu « Mamou ». Madame Reed et Monsieur Sanche ne sont pas surpris des résultats de l'étude de Madame Chiresh. « Mes petits-enfants me gardent jeune, » dit-elle. « Les plus vieux sont ados et ils me gardent au courant de la musique. Au fil des ans, je me suis intéressée aux dinosaures, au Moyen-Âge, à l'astronomie et aussi à la patte-patrouille et Minecraft. C'est sûr que ça me garde flexible. » Monsieur Sanche rapporte que, lorsque les iPads ont été lancés, il a appris à s'en servir pour pouvoir garder un lien avec ses petits-enfants. Des rôles différents. La prochaine étape dans les travaux de Madame Chiresh est d'examiner les motivations des grands-parents qui s'occupent de leurs petits-enfants. Il est possible que les grands-parents qui trouvent que c'est un fardeau aient moins de bénéfices cognitifs, dit-elle. Il faudrait aussi comprendre pourquoi il y a des différences pour l'impact chez les femmes et les hommes. Les grands-papas ont souvent un rôle de soutien, par exemple remplir un rôle de chauffeur, alors que les grands-mamans sont souvent plus impliquées dans les soins et l'éducation de leurs petits-enfants, avance-t-elle. Il se peut que cela explique les différences entre hommes et femmes. Autre possibilité, le rôle de soutien des grands-pères leur donne moins d'autonomie, en ce sens qu'on leur donne des directives, par rapport aux grands-mères qui pourraient avoir plus de latitude dans la manière dont elles s'occupent de leurs petits-enfants, propose Madame Chiresh. Des études montrent que les aînés qui ont la garde de leurs petits-enfants ont une moins bonne santé physique et psychologique que ceux qui s'en occupent de temps en temps, note Madame Chiresh. Cela pourrait être dû au fait qu'ils se considèrent comme trop vieux pour s'occuper d'enfants ou que leurs enfants, les parents des enfants, compliquent ce rôle parental inattendu. Même chez les grands-parents qui font du gardiennage, 1 sur 5 trouve que c'est un fardeau, note Madame Chiresh, s'appuyant sur une étude auprès de 3500 grands-parents néerlandais publiée en 2024 dans Aging and Society. Il n'y avait pas de différence entre la fréquence du gardiennage. Au Québec aussi. L'étude néerlandaise est très intéressante, selon Xavier Saint-Denis, de l'Institut national de la recherche scientifique, INRS, qui a publié en septembre une étude sur les grands-parents québécois. Dans la vie de tous les jours, on parle souvent des bénéfices pour les grands-parents de s'occuper de leurs petits-enfants, dit M. Saint-Denis. Mais il y a peu d'études qui les quantifient. Seul bémol, selon lui, dans l'échantillon néerlandais, les grands-parents qui s'occupaient le plus de leurs petits-enfants au début de l'étude avaient aussi un meilleur profil cognitif. Donc il est possible que l'effet protecteur de la grand-parentalité soit surestimé. L'étude québécoise a certains résultats semblables à celle de Madame Chiresh. Nous avons aussi observé des inégalités entre les genres, dit M. Saint-Denis. Son étude incluait des données sur la proximité émotionnelle qui étaient légèrement plus élevées pour les grands-mamans que pour les grands-papas, 60% contre 46%. Les grands-parents étaient aussi plus proches émotionnellement des enfants de leurs filles que de ceux de leurs fils, 59% contre 49%. Autre différence entre les sexes. Les grands-mères québécoises sont plus impliquées dans des soins traditionnellement associés aux femmes, dit M. Saint-Denis. Par exemple, plus d'une grand-maman sur 20 s'occupe des soins de ses petits-enfants au moins tous les 2 jours, contre un nombre négligeable de grands-papas. 2 fois plus de femmes que d'hommes font régulièrement du gardiennage. Et pourtant, la fréquence des contacts des petits-enfants avec grand-papa et grand-maman était similaire. Est-ce que cela pourrait signifier que grand-maman a un rôle à jouer lors de ces contacts, alors que grand-papa est plutôt un figurant? Peut-être, dit M. Saint-Denis, il est aussi possible que les grands-pères vont plus aux compétitions sportives de leurs petits-enfants. Ou alors, ça peut vouloir dire que les grands-mères appellent gardiennage ce que les grands-pères considèrent comme du temps de qualité passé avec leurs petits-enfants. En savoir plus, source, Aging and Society, 53% proportion des grands-parents néerlandais qui considèrent comme une obligation le fait de s'occuper de leurs petits-enfants s'ils les voient plusieurs fois par semaine. 17% proportion des grands-parents néerlandais qui considèrent comme une obligation le fait de s'occuper de leurs petits-enfants s'ils les voient quelques fois par année. 20% proportion des grands-parents néerlandais qui considèrent comme un fardeau le fait de s'occuper de leurs petits-enfants. C'était Le bienfait de s'occuper de ses petits-enfants, un texte de Mathieu Perrault paru le 22 février 2026 dans la presse.
Le jeu au travail, bien mieux qu'une distraction. Un texte de Jean-François Berthollet, paru le 25 janvier 2026 dans la presse. On entend souvent l'expression « work hard, play hard ». Cela trahit peut-être un travers de notre société. On y oppose le travail sérieux, consciencieux et intense au jeu, qui a inévitablement lieu à l'extérieur du travail. Comme s'il fallait souffrir d'abord, puis se ressourcer intensément ensuite pour compenser notre longue semaine. N'est-ce pas déprimant, sachant que l'on passe une si grande part de notre temps éveillé au bureau? Pourrait-on bénéficier d'un état d'esprit davantage porté vers le jeu dans nos organisations? Imaginez que nous soyons dans une énième rencontre de remue-ménage regroupant 15 personnes à la recherche de solutions pour un problème complexe. Comme trop souvent, l'ambiance est ennuyeuse et les gens participent peu. Mais si nous faisions autrement? Séparons plutôt le groupe en 3 équipes qui partent chacune de leur côté. Chacune doit présenter son plan de match dans 45 minutes. Ces plans seront évalués par un comité indépendant de 3 juges qui déterminera l'équipe gagnante. Go! Vous risquez alors de sentir l'énergie du groupe émerger. On entend soudainement des rires dans le corridor. Les tableaux blancs se remplissent. Des gens qui ne parlaient jamais prennent la parole et souvent, les idées deviennent meilleures. Gageons que l'esprit de saine compétition fera relever le niveau de performance. Dans ce scénario, quelque chose de subtil s'est produit. Le travail n'est pas devenu plus facile. Il est devenu plus vivant, plus engageant. Comprend-on mal le rôle du jeu en y voyant quelque chose de purement accessoire? Les enfants sont instinctivement attirés vers le jeu. On dirait que c'est leur métier. Ce n'est évidemment pas qu'ils jouent en attendant de se taper la vie plus sérieuse de leurs parents, mais parce qu'ils sont programmés pour le faire. Le jeu favorise leur développement cognitif et social. Mais pourquoi celui-ci s'atténue il à ce point pendant la vie adulte? La playfulness, qu'on pourrait traduire par une posture ludique, et la capacité à aborder les situations avec curiosité, souplesse et créativité, sans perdre le sérieux des enjeux. Les équipes qui adoptent cette posture ont tendance à reformuler les situations difficiles de manière plus engageante. Une tâche répétitive devient un défi personnel. Un enjeu complexe devient une énigme à résoudre. Des chercheurs ont distingué
quatre facettes à la posture ludique. Elle peut être relationnelle, comme des interactions sociales spontanées qui améliorent le climat de travail. Elle peut aussi être liée au fait d'aborder les situations avec plus de légèreté, comme improviser et cesser de dramatiser. Elle peut être intellectuelle, comme jouer avec les idées et voir les problèmes comme un casse-tête à résoudre. Finalement, elle peut être non conventionnelle, quand on accepte de sortir des sentiers battus et de s'aventurer dans l'inattendu avec amusement. Les bénéfices d'intégrer une posture ludique dans le travail sont nombreux. Des recherches ont notamment démontré son impact positif à la fois sur la performance et sur le bien-être au travail. En quoi une posture ludique favorise-t-elle la performance? On l'explique notamment par le fait que jouer nous permet de réinterpréter des situations et de penser de manière plus flexible. La réduction de la rigidité favorise ainsi la créativité, qualité d'ailleurs jugée importante dans le nouveau monde du travail. Pour la santé, on pose l'hypothèse que le jeu favorise des émotions positives essentielles à la santé mentale. L'esprit ludique a d'ailleurs été associé dans des études à une réduction du stress et de l'épuisement professionnel. Mais attention, la posture ludique ne se décrète pas. Elle ne se programme pas dans un plan stratégique et surtout, elle ne se force pas. Les tentatives de plaisir obligatoire tombent souvent à plat. Les activités imposées et les gadgets créatifs sonnent souvent faux. Le jeu fonctionne beaucoup mieux quand il est volontaire, contextuel et authentique. Autrement dit, c'est une culture à développer. Une culture où les gens se sentent suffisamment en confiance pour proposer des idées imparfaites. Où l'erreur est tolérée comme partie du processus. Où les gestionnaires donnent le ton en montrant qu'on peut réfléchir sérieusement sans se prendre trop au sérieux. D'un point de vue individuel, nous avons intérêt à développer cette posture ludique pour être résilient dans un marché du travail exigeant. Et si vous êtes gestionnaire, assurez-vous de ne pas être un éteignoir de jeu. Valorisez-le en tant qu'élément culturel distinctif de votre équipe. Pour citer l'entraîneur-chef du Canadien, Martin Saint-Louis, à chacun d'entre nous d'apporter notre contribution à la posture ludique en jouant notre game dans la game. C'était Le jeu au travail, bien mieux qu'une distraction, un texte de Jean-François Berthollet, paru le 25 janvier 2026 dans La Presse.
Climatisation. La demande devrait tripler d'ici 2050, alerte l'ONU. Un texte de l'Agence France-Presse publié sur TVA Nouvelles. Face à la multiplication des vagues de chaleur, la demande d'appareils de climatisation pourrait plus que tripler dans le monde d'ici 2050, prévient le Programme des Nations Unies pour l'environnement, appelant à l'adoption de solutions de refroidissement moins polluantes. L'étude Global Cooling Watch 2025, publiée lundi par le Programme des Nations Unies sur l'environnement en marge de la COP30 à Belém au Brésil, révèle, citation, que la demande en climatisation pourrait plus que tripler d'ici 2050 si les tendances actuelles se maintiennent. Fin de citation. Cette augmentation, citation, serait due à la croissance démographique et à l'accroissement des richesses, à la multiplication des épisodes de chaleur extrême et à l'accès croissant des ménages à faible revenu à des systèmes de refroidissement plus polluants et moins performants, souligne l'organisation. En conséquence, les émissions de gaz à effet de serre liées à la climatisation, citation, doubleraient presque en 2050 par rapport au niveau de 2022, atteignant environ 7,2 milliards de tonnes d'équivalent de CO2 d'ici 2050, prévoit le Programme des Nations Unies. Fin de citation. Pourtant, citation, face à la multiplication et à l'intensification des vagues de chaleur meurtrières, l'accès au refroidissement doit être considéré comme une infrastructure essentielle au même titre que l'eau, l'énergie et l'assainissement. Fin de citation, a souligné dans un communiqué Inger Andersen, directrice exécutive du Programme des Nations Unies pour l'environnement. Mais la climatisation à elle seule, citation, ne suffira pas à résoudre la crise de la chaleur, car elle entraînerait une hausse des émissions de gaz à effet de serre et une augmentation des coûts. Fin de citation. Ainsi, l'organisation recommande la généralisation de l'adoption de solutions dites passives, comme l'occultation du soleil, les ventilations manuelles, la végétalisation ou une meilleure isolation, voire d'autres solutions telles que le refroidissement basse consommation et le refroidissement hybride, combinant ventilateurs et climatiseurs à faible ou sans consommation d'énergie. Fin de citation. Ces solutions, citation, économes en énergie et fondées sur la nature, peuvent contribuer à répondre à nos besoins croissants en refroidissement et à protéger les populations, les chaînes alimentaires et les économies des effets néfastes de la chaleur, tout en poursuivant les objectifs climatiques mondiaux, fin de citation, a poursuivi Mme Andersen. Près des deux tiers des réductions d'émissions possibles, citation, proviennent de solutions passives et à faible consommation d'énergie, ce qui souligne l'urgence de les intégrer aux politiques nationales et à la planification urbaine, insiste le Programme des Nations Unies pour l'environnement. Elle permettrait, selon l'organisation, citation, d'améliorer l'accès au refroidissement pour 3 milliards de personnes supplémentaires d'ici 2050, et dont les personnes vulnérables et à faible revenu, mais aussi d'économiser 17 000 milliards de dollars en coûts énergétiques cumulés d'ici 2050. Fin de citation. La Fondation ClimateWorks estime à 3 milliards le nombre de nouveaux climatiseurs qui seront vendus dans le monde entre 2025 et 2050. C'était Climatisation. La demande devrait tripler d'ici 2050, alerte l'ONU. Un texte de l'Agence France-Presse, publié sur TVA Nouvelles.